16h51, il y a une semaine, on apprenait via le Washington Post qu'un espion américain, un membre de la communauté du renseignement, avait fait une plainte officielle dans les canaux officiels contre le président des États-Unis. Depuis une semaine, le mystère planait sur l'identité de cette personne-là, sur le contenu de la plainte. On sait maintenant que c'est un agent de la CIA. Et Raphaël Jacob, tu vas nous lire les 87 mots les plus importants de la journée qui sont tirés de cette plainte officielle.
Dans le cadre de mes fonctions officielles, j'ai reçu de l'information provenant de sources multiples dans le gouvernement que le président des États-Unis utilise le pouvoir de sa fonction pour solliciter l'interférence d'un pays étranger dans l'élection de 2020. Cette interférence consiste notamment à faire pression sur un pays étranger pour enquêter sur un des principaux adversaires politiques du président. Et j'ajoute rapidement que les noms de M. Giuliani et de M. Barr, les avocats personnel et de la Maison-Blanche, respectivement, sont également mentionnés.
Donc, ce sont des mots explosifs. Et aujourd'hui, à Washington, il y avait juste un sujet et c'était cette plainte-là, Raphaël.
Évidemment, parce que là, c'est pas seulement certains élus du Congrès qui l'ont vu à huis clos. C'est la population entière et c'est explosif. On ne peut pas sous-estimer. Il y a l'extrait qu'on vient de lire qui est assez évocateur en soi, on s'entend. Il y en a un autre dont je veux te parler. Je ne le citerai pas celui-là là, mot pour mot, mais je vais te le résumer. Ce que le lanceur d'alerte allègue, c'est qu'il y aurait des employés de la Maison-Blanche, des membres du personnel qui, sous l'ordre des avocats de la Maison-Blanche, auraient retranché la transcription intégrale du fameux appel entre Donald Trump et le président ukrainien du système d'archivage électronique habituel. Pourquoi? Pour le cacher. Réalises-tu comment c'est grave potentiellement? On est dans un tout autre registre. Et ce qui est hallucinant, en fait, c'est que dans la foulée du rapport Mueller, tu vas t'en rappeler, là, qu'est-ce qu'on disait? On disait que l'équipe du président l'avait protégé de lui-même, que la raison pour laquelle Donald Trump ne se ramassait pas avec des accusations d'obstruction ou d'entrave à la justice, c'est parce que son personnel avait refusé de lui obéir. Eh bien là, aujourd'hui, le comble de toutes les ironies, c'est que le pire des pétrins dans lequel Donald Trump risque de se ramasser, c'est lié au fait que son équipe a peut-être trop voulu le protéger de lui-même en, encore une fois, cachant une transcription d'appel officiel entre deux chefs d'État. C'est ahurissant.
Comment réagissent les républicains, Raphaël? Est-ce que les républicains sont dans une position de déni face à leur président ou ils commencent à avoir des cracks un peu dans l'armure?
Il y a des cracks. Je te dirais qu'il y a surtout beaucoup, beaucoup de silence radio. Beaucoup de sénateurs républicains qui, mystérieusement, ont comme développé une allergie aux caméras et aux micros depuis hier. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Donald Trump les interpelle sur la place publique. Donald Trump a envoyé en fait un tweet en lettres majuscules ce matin en appelant les républicains du Congrès à serrer les rangs devant les démocrates parce qu'évidemment, il veut en faire une affaire partisane. Mais pour bien des républicains, c'est profondément malaisant parce qu'on demande de défendre l'indéfendable. Tu vas me dire que c'est peut-être pas la première fois ou même la dixième de cette présidence-là.
ça les a pas gênés dans le passé, mettons.
Non, sauf que là, je pense qu'il y a une espèce de consensus comme quoi, cette fois-ci, c'est différent parce que c'est pas juste des comportements inappropriés. Là. On parle non seulement de viol de normes ou de conventions, mais de quelque chose d'autre. Encore une fois, on est dans un autre registre. Donc, je suis pas en train de te dire que tout ce beau monde-là va virer capot et va voter pour destituer le président. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que la soupe est chaude comme elle l'a probablement jamais été depuis le début de la présidence pour Donald Trump. Et je t'ajoute ceci rapidement, Patrick. Il y a une chose à garder à l'œil dans tout ça. Deux nombres, en fait, à garder à l'œil. Le premier, évidemment, ça va être le pourcentage d'Américains qui est pour ou contre la destitution. Je te l'ai dit, les démocrates misent pas mal avec cette affaire-là parce que jusqu'à maintenant, c'était la majorité des Américains qui se disaient contre. Il faudra voir si ça va changer avec les révélations qui tombent un jour après l'autre. Mais pour moi, le nombre à garder le plus proche à l'œil, c'est le taux d'approbation de Donald Trump. Parce que oui, tout le processus de destitution, il y a une composante légale, une composante juridique, évidemment. Mais c'est aussi un processus qui est intrinsèquement et très profondément politique. Quand Richard Nixon a été forcé de démissionner, son taux d'approbation était dans les 20 %. Il n'y a plus personne au Congrès qui voulait le protéger, incluant les membres de son propre parti. Par contre, quand Bill Clinton, 20 ans plus tard, a été acquitté, son taux d'approbation, lui, il était dans les 60 %. Les démocrates ont serré les rangs derrière lui. Là, aujourd'hui, Donald Trump est à 45 %. Pour moi, la question, c'est de savoir, est-ce que ce taux-là va tenir? Et si la réponse, c'est non, combien de temps ça va prendre avant que les républicains commencent à quitter le navire? Mmh. Et si, à l'inverse, ça se maintient, est-ce qu'il y a beaucoup de républicains qui vont quitter le navire?
Oui, parce que la prochaine élection présidentielle, c'est pas juste un président qu'on va choisir, c'est aussi plein d'élus. Je pense que c'est le tiers du Congrès, donc eux voudront pas couler avec Donald Trump.
Et voilà.
Parfait. Merci beaucoup, Raphaël. On te reparle demain. À venir dans l'émission, Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, Thérèse Parisien, Richard Therrien. À 18h, on parle des élèves qui ont de la misère à l'école.